Abraham, Paul et Timothée, Moïse, Élie, Pierre, Jacques et Jean, et le Christ, et nous, pourrions-nous dire. Paul l'affirme, Dieu nous a sauvés et nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Frères et sœurs, le temps du carême n'est pas d'abord un temps où nous sommes invités à faire des efforts, il ne s'agit pas d'abord de nos actions à nous, mais il s'agit d'entrer dans le projet de Dieu. Paul le rappelle, si Dieu nous a sauvés, ce n'est pas à cause de nos propres actes, de ce que nous aurions pu faire pour mériter le salut, mais c'est vraiment en vertu de son projet à lui et de sa grâce. Grâce, ça veut dire gratuit. Le christianisme est la religion du gratuit, de la grâce de Dieu, de son amour qui est donné gratuitement en Jésus-Christ. Et le temps du carême, ce n'est pas un temps où il n'y a rien à faire, mais c'est un temps où il nous faut entrer davantage dans ce projet de salut de Dieu, dans ce cadeau gratuit du salut qui nous est fait en Jésus-Christ. Et cela suppose de quitter notre confort, notre canapé, d'entrer, oui, dans un certain nombre d'efforts, mais vous voyez, ce n'est pas des efforts pour obtenir le salut, c'est des efforts pour entrer dans le projet de Dieu. Le premier qui l'a vécu, c'est Abraham. Il a fait l'expérience, d'abord, le premier, de la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'Abraham est notre père dans la foi. La foi, c'est quoi? C'est la confiance en cet amour de Dieu, en ce projet de Dieu. Qui dit confiance va dire écoute, va dire obéissance à la parole de Dieu. Entrer dans le projet de Dieu suppose d'abord d'écouter ce projet, cet appel de Dieu pour nous, et d'y entrer, d'y répondre. C'est ça la foi. C'est une réponse à l'appel de Dieu, à son projet, à sa parole. Abraham, notre père dans la foi, on l'a entendu dans la première lecture, entend cet appel. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Le pape François, il y a quelques années, aux Journées mondiales de la jeunesse, l'avait transcrit en langage moderne aux jeunes, il leur avait dit « quitte ton canapé ». Voilà. Mais c'est valable pour chacun et chacune d'entre nous. Nous sommes à une époque où c'est tellement facile de se replier sur soi, où on a tout à portée de trois clics, on peut vivre entièrement centré sur soi et avec Internet, convoquer la terre entière au secours de nos besoins, pour combler tous nos besoins. Et Dieu nous invite, Dieu nous impelle à entrer dans son projet à lui. Et c'est un projet merveilleux, c'est un projet d'amour qui seul peut combler nos cœurs. Parce que nous faisons aussi l'expérience que finalement, à rester dans notre canapé, derrière nos écrans ou nos connexions, nous finissons par mourir. Et s'il y a tant de mal-être chez nos jeunes aujourd'hui, c'est sans doute, bien sûr, mais il y a des causes, il y a des raisons objectives, extérieures, d'une situation difficile, mais aussi parce que finalement la tentation de ce monde, eh bien, serait de se replier sur soi, alors que le secret de la vie en plénitude, c'est de répondre à l'appel de Dieu, qui est de toujours à toujours, depuis Abraham, « Viens et suis-moi ». Parce que notre Dieu est le Dieu de l'espérance. En même temps que Dieu appelle Abraham, il lui fait une promesse magnifique. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Tu deviendras une bénédiction. » Tu deviendras une bénédiction. Dieu nous appelle, pas pour nous tendre un piège, mais pour nous bénir et pour faire de nous, de chacun et chacune d'entre nous, une bénédiction. C'est ça qui est merveilleux. Le projet de Dieu, c'est que nous soyons bénédiction les uns pour les autres. Dieu, son projet de salut, ne veut pas le réaliser sans nous. Quel besoin avait-il d'aller chercher cet obscur, on va dire, mésopotamien, polythéiste, païen, du nom d'Abraham, pour commencer ce projet d'un peuple à qui il pourrait parler, se révéler et finalement envoyer son fils? Dieu n'a pas besoin de nous, mais il veut nous associer à son projet de salut. C'est notre grande dignité. On parle beaucoup en ce moment de mourir dans la dignité, de qu'est-ce que la dignité finalement, avec raison, c'est intéressant de dire d'où vient notre dignité d'hommes et de femmes. Eh bien, indépendamment de ce que nous pouvons faire, elle vient du projet de Dieu que Dieu a pour nous, de l'amour que Dieu nous porte et que nous sommes chacun, chacune unique à ses yeux. Même la biologie, vous savez, l'ADN le dit, chacun et chacune, on est unique. Il n'y en a pas deux comme toi, comme moi. C'est quand même extraordinaire. Même s'il y a ces milliards, ben chacun, on est unique dans le plan de Dieu. Et si nous ne faisons rien, si nous restons dans notre canapé ou si nous essayons de copier le voisin, eh bien, c'est dommage parce que Dieu veut qu'on soit une bénédiction unique pour les autres. On pourrait dire d'une certaine manière, ça désespère Dieu qui nous est créé comme des originaux et comme disait le bienheureux Carlo Acutis, qu'on passe notre temps à essayer d'être des photocopies, n'est-ce pas ? Voilà. Alors frères et sœurs, le secret pour justement entrer dans ce projet de Dieu, c'est ce qui est demandé à Abraham au début et c'est ce que Dieu le Père demande à la transfiguration. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il s'agit d'écouter. Dieu a tant à nous dire. Et si nous prenions le temps de l'écouter, vraiment, en vérité, c'est-à-dire de faire silence, de nous mettre devant le Seigneur, de dire « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Écouter, c'est risqué, c'est dangereux, parce que ça peut nous amener loin. Écouter, ça va supposer d'accueillir une parole, de la recevoir et d'être prêt à se laisser, j'allais dire, déranger par cette parole, de se laisser mettre en route par cette parole. Cette parole, elle vient éclairer nos intelligences et elle vient solliciter notre volonté. Il s'agit ensuite de la comprendre et d'y répondre par la foi. Mais comme je le disais, le projet d'amour, il est grand, il est beau, il est merveilleux pour chacun et chacune d'entre nous. Ce serait tellement dommage de passer à côté. Alors c'est vrai, les circonstances peuvent être difficiles. Beaucoup de choses peuvent nous refroidir, nous effrayer, nous angoisser, nous inviter plutôt à la prudence, au repli sur nous-mêmes. C'est pour ça que dans l'Évangile, et le carême commence avec ce temps de la transfiguration où Jésus apparaît et est transfiguré sous les yeux de Pierre, Jacques et Jean pour les fortifier justement dans l'épreuve, dans le combat. Avec cette parole forte, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie, écoutez-le. La réponse du Père à nos interrogations, à nos difficultés, peut-être à nos épreuves, à nos pourquoi, ce ne sera pas des grandes théories, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus. Et que le carême est un temps qui nous invite à nous recentrer sur le Christ, à nous mettre à nouveau à l'écoute du Christ. Quand la transfiguration cesse, Pierre, Jacques et Jean lèvent les yeux et ne voient plus personne sinon Jésus seul. Eh bien, au milieu des ténèbres de ce monde, peut-être des difficultés de ce monde, le Père nous donne Jésus. Et parfois, c'est Jésus seul, mais il nous invite à suivre Jésus seul, parce que Jésus est la parole faite chair. Il est le Verbe de Dieu. Et s'il a été transfiguré, c'est pour manifester cette espérance de la gloire de Dieu qui rayonne déjà du Christ, même si la divinité est voilée par son humanité. Le Père nous dit, oui, c'est bien lui. Vous ne faites pas erreur. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas du baratin. Ce n'est pas des blablas. Jésus est vraiment le Fils de Dieu, celui qui veut nous conduire à la gloire. Et il l'a fait par sa mort et par sa résurrection. Si Jésus a été transfiguré pour Pierre, Jacques et Jean, c'est justement pour que leur foi soit enracinée, fondée sur leur expérience qu'ils avaient fait du Christ. Et non pas sur peut-être les circonstances qui même à certains moments allaient sembler tout contredire. Quand Jésus allait être arrêté, crucifié sous leurs yeux, il y avait de quoi tout laisser tomber. Et se dire, mais on s'est vraiment trompé. Eh bien là, non. La foi nous dit que non. Nous avons raison de suivre le Christ. Au-delà de toutes les difficultés, les souffrances de cette vie, une gloire sans prix nous attend. C'est déjà celle du Christ transfiguré, dont Pierre, Jacques et Jean ont été les témoins oculaires, comme Pierre le dira dans sa lettre, hein, que la foi ne repose pas sur des mythes, une mythologie, des inventions, mais véritablement sur ce dont les premiers apôtres ont été témoins, ce dont les chrétiens sont témoins de génération en génération, cette gloire du Christ ressuscité, mort et ressuscité pour nous. Frères et sœurs, au début de ce carême, eh bien, relevons la tête, levons les yeux comme Pierre, Jacques et Jean, pour nous centrer sur le Christ mort et ressuscité pour nous, pour repartir dans l'espérance, dans la foi, dans la confiance en ce Dieu d'amour qui a des voies certes qui peuvent nous déconcerter, qui peut permettre l'épreuve, qui peut permettre la croix, parfois de manière incompréhensible, mais qui nous invite à lui faire une confiance, j'allais dire aveugle, une confiance aveugle mais pas sourde, une confiance qui repose sur sa parole, une confiance qui nécessite d'écouter sa parole à chaque moment, de nous en nourrir profondément. C'est ce que tous les disciples, les chrétiens ont vécu de génération en génération, alors que la parole du Christ soit notre nourriture. Nous en avons besoin si nous voulons traverser les épreuves de ce temps. Que cette parole du Christ nourrisse notre foi, notre espérance, notre charité, qu'elle nous mette en route pour quitter nos canapés, pour nous mettre à la suite de Jésus et pour éprouver cette joie immense d'être disciple missionnaire, témoin de l'Évangile, comme Paul l'écrit à Timothée, qui va impliquer certes un certain nombre de souffrances liées à l'annonce de l'Évangile, mais que nous sommes invités à traverser avec la force de Dieu, dans cette joie et cette espérance invincible de la victoire que le Christ a déjà remportée sur la mort et le péché. Alors que le Christ transfiguré, que le Christ ressuscité soit notre espérance, notre joie, que sa parole soit notre nourriture et que l'Église soit ce creuset pour notre foi, pour la nourrir, pour l'entretenir et pour la partager et pour l'annoncer à notre monde qui en a tant besoin. Amen.